Une nouvelle fois, bonsoir à tous. Une nouvelle fois et pour la dernière fois. Nous avions préparé cette série de conférences pour la période de Toussaint. Cela nous paraissait si lointain. Et voilà que déjà nous allons devoir nous serrer la main, nous dire au revoir, nous dire adieu peut-être. J'aimerais dire à quel point j'ai été heureux de participer à cet effort. Je me sens très honoré de l'appel qui m'a été adressé pour être le porte-parole des communautés évangéliques pour la prédication de l'Évangile dans votre région. Nous abordons maintenant, donc une dernière fois, le sujet des trois résurrections de la mort à la vie. Une soirée comme celle-ci est tout à fait différente des conférences, spectacles et autres manifestations qui se font dans le monde, dans ce sens que lorsque vous assistez à une soirée quelconque, vous entrez, vous payez votre place, vous sortez et vous êtes quitte. Ceux qui vont voir un match de football ou visitent un musée paient leur entrée, puis s'en vont et ils s'en quittent. Tandis qu'à la fin de cette soirée, vous ne serez pas quitte. Non pas parce que l'entrée est gratuite et la sortie aussi, mais parce que l'Évangile implique de la part de ceux qui l'entendent, une réponse, une décision, un engagement. Ce soir, au-delà de ma voix, vous entendrez une autre voix, plus subtile, plus profonde, qui parlera à votre conscience, à votre cœur. C'est la voix de Dieu. Vous allez être confrontés ce soir avec un appel de la part du Seigneur. Et à cet appel, vous allez répondre par oui ou par non, ou ne pas répondre du tout, ce qui équivaudra à lui dire non. Et ce soir, dans les dernières minutes de la rencontre, je vous le dis au début pour que vous ne soyez pas surpris, nous aurons un moment de recueillement, un moment où nous allons faire un choix intérieur, car l'Évangile est essentiellement intérieur et personnel. Il faut se rappeler que le Seigneur Jésus a toujours appelé ses disciples publiquement. Et les premiers chrétiens, lorsqu'ils prêchaient l'Évangile, accompagnaient leur prédication d'une cérémonie de baptême public. Ils demandaient aux gens de s'avancer et de se faire plonger entièrement dans l'eau d'après le sens étymologique du mot « baptiser » qui veut dire « plonger ». Bien sûr que si je vous proposais le baptême ce soir, vous ne vous y prêteriez probablement pas. Je n'ai d'ailleurs pas d'eau à ma disposition. Mais il y a quand même une décision ouverte qui doit se prendre. Les soirs passés, j'ai offert une carte de décision à la sortie. J'ai demandé une minute de recueillement suivie d'une décision intérieure. Ce soir, je demanderai quelque chose d'autre. Pendant la minute de recueillement, je vous demanderai de faire le point dans votre vie. Et si vous êtes d'accord avec le message du salut, je vous demanderai de marquer votre décision par un geste très simple et pourtant difficile, un geste qui vous engagera, non pas vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de nous, mais vis-à-vis du Seigneur. Un geste que le Seigneur verra, ce sera de lever votre main une seconde, ce qui voudra dire « Seigneur, c'est d'accord, je me tourne vers toi, aujourd'hui je t'accepte comme mon sauveur personnel, et dans la main que tu me tends, je mets la mienne. » Ce geste, je serai à peu près le seul à le voir. Et je vous recommanderai ensuite à la grâce du Seigneur dans la prière. Préparez-vous donc pour cette minute de décision, et que le Seigneur vous aide. Ces soirs passés, Nous avons lu trois textes dans les évangiles, trois récits qui nous ont parlé de trois résurrections opérées par le Seigneur sur la personne d'une jeune fille, d'un jeune homme et de Lazare de Béthanie. Le premier soir, nous avons vu la mort physique et sa défaite. Le deuxième soir, nous avons vu la mort spirituelle et sa défaite. Hier après-midi, nous avons vu les obstacles à la vie. Et aujourd'hui, nous allons donner comme titre « Premier signe de vie ». Et tout cela, je le rappelle, sous le titre général de la mort à la vie, ou bien « Pompe funèbre aux endeuils » ou « La Camarde à reculer ». Relisons donc ces textes en prenant d'abord dans l'évangile de Luc au chapitre 7 et à partir du verset 13, j'ouvre la Bible là, le récit du jeune homme, fils de la veuve de Naïn. Jésus s'est approché du cortège en route pour le cimetière, l'a empêché d'aller plus loin et il est écrit ceci. Le Seigneur l'ayant vu, la mère du jeune homme, donc l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit au jeune homme « Je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Premier signe de vie, il s'assit et se mit à parler. Voyons le deuxième récit, celui de la fille de Jaïrus, chapitre 8 du même évangile, verset 52. Le Seigneur s'approche, et je lis que tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et lui dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Premier signe de vie, elle se lève et elle mange. Maintenant, dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, nous avons le récit de la résurrection de Lazare, et au verset 43, on trouve le Seigneur devant le sépulcre. La pierre a été roulée, et je lis, « Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare sort !» Et le mort sortit. Premier signe de vie, le mort sort du sépulcre. Ensuite, dans l'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens, je lis au chapitre 3 le verset 1er. « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, c'est-à-dire si vous êtes converti, si vous êtes né de nouveau, si vous êtes sauvé donc, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Il ressort de la lecture de ces trois récits que la personne du Seigneur Jésus est glorieuse. Il est indiscutablement le prince de la vie. Comme l'homme ne discute pas avec la mort, la mort ne discute pas avec le Fils de Dieu. Que Jésus-Christ prononce un seul mot, et la mort se courbe et s'exécute sur le champ. La parole de Dieu dit qu'il met tous ses ennemis à ses pieds, et la mort ne fait pas exception. La mort elle-même doit rendre l'âme lorsque paraît le prince de la vie. Le Seigneur est ce qu'il a affirmé être. Il est la source de la vie, il est l'origine de la vie, il est celui à qui tout remonte, il est Dieu. Jésus, c'est celui qui trois fois, dans un court laps de temps, a répété le miracle qu'il avait fait au début de la création, lorsqu'il prit de la poussière du sol les éléments constituants du corps humain, il avait alors devant lui une enveloppe inanimée, et dans cette enveloppe, il souffla un esprit vivant. Le miracle s'est fait et l'homme se mit à vivre. Eh bien, 40 siècles plus tard, le Seigneur se retrouve devant trois cas semblables et il refait le même miracle. Jésus-Christ est vraiment Dieu. En premier lieu, Il est bon de remarquer que lorsque le Seigneur a ressuscité ces trois personnes, il n'y a pas seulement eu vie, mais il y a eu signe de vie, d'après le titre de ce soir. Le jeune homme s'est assis, la jeune fille s'est levée, et Lazare est sorti. Ce qui veut dire que quand le Seigneur ressuscite quelqu'un, il ne l'appelle pas à une vie cataleptique ou à la vie au ralenti des animaux qui hibernent, non. Quand Jésus ressuscite quelqu'un, il le fait pleinement. Et quand il sauve quelqu'un, il le fait aussi pleinement. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. » Alors, que faut-il penser de ceux qui affirment croire en Jésus-Christ et de la vie desquelles il ne sort rien, ni un fleuve, ni une rivière, ni une source, ni un ruisselet, pas même un suintement à rien? Que penser, sinon qu'ils n'ont pas la vie? Parce que si la vie de Jésus-Christ est en vous, cette vie portera des fruits, produira des signes et des effets. Car toute vie produit des effets. Et si c'est vrai dans le domaine physique, c'est aussi vrai dans le domaine spirituel. Quand un bébé vient au monde, la première chose qu'il fait, c'est crier et bouger. Il est impossible que la vie soit séparée du mouvement et de signes de vie évidents. Qu'aurait-on pensé de Jésus-Christ si, ayant dit « Lazare sort », Lazare n'était pas sorti? On aurait pu blâmer le Seigneur, mais on ne le blâmera jamais, parce que chaque fois que le Seigneur parle, chaque fois il sauve un pécheur, et ce pécheur sort de sa mort, de sa catalepsie spirituelle, et des signes de vie apparaissent. L'un des grands reproches que l'on a fait à la chrétienté, c'est qu'elle n'a pas porté les signes d'un authentique christianisme. Elle a versé le sang, elle a manié l'épée, elle a inventé les croisades et l'horrible inquisition. Une certaine section de la chrétienté n'a pas moins de 50 millions de cadavres sur la conscience. Ce christianisme-là a fait tout ce que le paganisme a fait avant lui. D'ailleurs, où est la vie de Jésus-Christ dans ce qu'on appelle pompeusement aujourd'hui plus d'un milliard de chrétiens? Où est la vie de Jésus-Christ chez tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Oh, bien sûr, me direz-vous, il est trop facile de voir la chrétienté en général et de tout englober d'un large coup d'œil. Mais on peut aussi essayer d'y regarder d'un peu plus près. Dans ma courte expérience, 30 ans de ministère et d'itinérance, j'ai rencontré beaucoup de ces prétendus ressuscités, de ces prétendus chrétiens qui affirment croire en Jésus-Christ, qui affirment que Jésus-Christ leur a parlé, et qui, eux, n'ont pas remué le petit doigt spirituellement parlant. Ils sont restés pareils à eux-mêmes. Je me rappellerai toujours cette femme à qui j'ai demandé un jour « Est-ce que vous êtes sauvée ?» Elle m'a dit, « Oh, vous savez, monsieur, une nuit, moi j'ai eu une vision. J'ai vu le Seigneur Jésus, il s'est approché de moi, il m'a regardé, il m'a parlé, et j'ai même vu ses lèvres remuer. » Et ainsi, cette femme tenait pour salut ce qu'elle avait aperçu dans un moment de fièvre mystique. Mais rien n'avait changé dans sa vie. Et elle a continué à vivre dans le péché comme avant. Et l'on en rencontre de ces prétendus ressuscités, convertis depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, voire plus. Ils n'ont pas bougé, ils ont gardé le même genre de vie mondain, ils sont restés ce qu'ils étaient dans le même état. Tout simplement, ils sont un peu plus morts qu'au jour de leur prétendue conversion. Et s'ils ont bougé, c'est dans le sens de la corruption, un peu moins vivant pour Dieu que le jour où ils ont senti un frisson leur passer le long de l'échine dorsale, qui n'a laissé aucune trace durable dans leur vie. Je le répète et je maintiens que là où il y a vie, il y a preuve de vie et signe de vie. En deuxième lieu, on ne peut pas ressusciter de rien du tout. Monsieur de la Palisse en aurait dit autant. On ressuscite de quelque chose. De même, on n'est pas sauvé de rien du tout. On est sauvé de quelque chose. Regardez le jeune homme. Il n'est pas resté dans son cercueil. La jeune fille n'est pas restée étendue sur son lit. Et Lazare n'est pas resté dans son tombeau. Ils en sont sortis. Ce serait un aussi grand non-sens d'affirmer que l'on peut ressusciter de rien que d'affirmer que l'on peut se convertir de rien. Lazare n'a pas été ressuscité dans sa mort, il a été ressuscité de sa mort. Et quand Jésus sauve quelqu'un, il ne le sauve pas dans ses péchés, mais il le sauve de ses péchés, d'une ancienne façon de vivre, d'un ancien genre de vie à un nouveau genre de vie. C'est une nouvelle naissance, pas moins. L'Écriture dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie ». Et il est encore écrit « Celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles ». Il y a beaucoup de gens qui voudraient bien être sauvés, mais sans que le Seigneur touche à leur vie. C'est un peu, cela fait sourire, c'est un peu comme si Lazare avait dit « Seigneur, je veux bien que tu me ressuscites, mais pas que tu me fasses vivre. C'est impossible. » En troisième lieu, nous venons de dire qu'ils n'ont pas été ressuscités de rien du tout, mais de quoi l'ont-ils été? La jeune fille est sortie de sa couche mortuaire. La vie qui a pénétré en elle l'a fait irrésistiblement se lever de dessus son lit. Et qu'est-ce que le lit peut représenter pour nous? Le lit, c'est un endroit moelleux, doux, facile, relaxant. C'est le lieu des rêves où l'on s'échappe facilement de la réalité, où l'on peut se bercer d'illusions. Et ainsi, pour le salut éternel, on peut se reposer sur une bonne famille, une bonne réputation, un bon milieu social ou religieux, une bonne opinion de soi. On peut se reposer sur tout cela et sur bien d'autres choses encore. Ce sont là des lits sur lesquels on s'endort du sommeil mortel de la fausse sécurité, et où souvent de chers amis viennent encore vous border pour entretenir l'illusion fatale. Ce sont des lits de mort. Mais quand Jésus-Christ passe et parle, ça fait une belle bombe dans ce beau décor de fausse sécurité. Le Seigneur s'adresse à la petite fille et lui dit « Lève-toi ». Et il s'adresse à nous ce soir et il dit « Lève-toi, lève-toi ». Lève-toi de la bonne opinion que tu as de toi-même, c'est un suaire. Lève-toi de ta religion de fabrication humaine. Lève-toi de tes petits rites religieux, c'est un linceul. Lève-toi de tout ce sur quoi tu te reposes et qui ne peut pas te sauver. Le Seigneur vous regarde et vous dit, lève-toi, sors de là pour être sauvé. Mais peut-être que vous aimez mieux croire que vous pouvez être sauvé sans avoir à changer quoi que ce soit à votre genre de vie. Peut-être préférez-vous croire que vous pouvez rester allongé avec les autres allongés, en attendant pour de bon le boulevard des allongés. Mes amis, serait-ce du haut de la chair dite de vérité? Si on vous a promis la vie éternelle de cette façon-là, moi je ne vous la promets pas. Ni moi, ni la parole de Dieu, ni Dieu lui-même. Il n'y a qu'une voie de salut. C'est celle qui nous fait sortir du milieu dans lequel on est pour saisir et entrer dans la vie de Jésus-Christ. Regardez maintenant le cas du jeune homme. Ce jeune homme s'est assis sur son cercueil. Et qu'est-ce que le cercueil peut bien représenter pour nous? Rien ne ressemble à un cercueil comme un autre cercueil. C'est un assemblage étriqué de quelques planches ayant une forme déterminée pour un usage déterminé. Ça s'appelle du pareil au même. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Rien n'est aussi tristement traditionnel qu'un cercueil. Et traduit dans le domaine des choses spirituelles, le cercueil représente ceci. Admettre ce qui est généralement admis. Croire ce qu'il est de bon ton de croire. Ne considérer comme acceptable que ce qui est généralement accepté. Ça s'appelle faire comme tout le monde. N'avoir de conscience ou de conviction que celle fabriquée par les autres. Parce que c'est ça, un cercueil. Ce n'est pas vous qui le fabriquez. Ce sont les autres qui le fabriquent pour vous et qui vous enferment dedans. Et il y a des modes de vie comme ça. Ils vous sont préfabriqués. L'apôtre Pierre, qui n'était pas tendre pour ses pères et pour la religion de ses pères, a parlé dans son épître de la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos pères. C'est ça. C'est admettre des idées toutes faites d'avance. C'est avoir une religion dans laquelle on nous met de force, sans nous demander notre avis, et surtout sans nous permettre d'y réfléchir, et sans nous permettre de la remettre en question. Hors de nous, point de salut, entendons-nous dire. On est les meilleurs, point final. Voilà ce que représente le cercueil. Savez-vous ce que le jeune homme a fait de son cercueil? Il s'est assis dessus. Eh bien, mes amis, à toutes les traditions erronées, étriquées, préfabriquées, que représente le cercueil, je vous invite à faire comme lui, asseyez-vous dessus. Vous ne le regretterez jamais, car il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, qui révise sa position, que pour 99 autres qui se croient justes et infaillibles. N'est-il pas écrit « Il y aura de la joie auprès des anges » dit la parole de Dieu, « comme il y a eu de la joie dans le cœur de cette maman quand elle a vu son fils s'asseoir sur son cercueil. Elle n'a pas été choquée, elle, quand elle a vu son fils bousculer le protocole d'une façon aussi peu conventionnelle. Elle ne lui a pas dit « Mais enfin, mon fils, a-t-on jamais vu ?» Ton père, moi, dans la famille, on n'a jamais interrompu une cérémonie comme ça. Non, mais alors, t'asseoir sur le protocole, t'aurais pu attendre d'être arrivé au cimetière. Fi le vilain garçon, allez, oust, remonte et rallonge-toi dans ta bière. Si donc la conversion, en changeant votre vie, choque quelqu'un, ce ne sera en tout cas pas moi. Ni mes frères qui sont ici avec moi, ni le Seigneur qui est dans son ciel. Le seul à trouver l'aventure saumâtre, ce sera le diable et ses agents qui sont à son service. Eux n'y trouveront pas leur compte pour sûr, et ils vous le feront bien voir. Non, le fils de la veuve de Naïn n'est pas resté dans son cercueil, il en est sorti. Premier signe de vie. Voyons maintenant le troisième cas, Lazare. Lazare, lui, est sorti de son sépulcre. Et qu'est-ce que cette grotte, caveau ou sépulcre, peut représenter pour nous? Le sépulcre, la grotte, c'est un endroit noir, froid, taillé dans la roche, et c'est là une image de ce qu'était notre vie avant notre conversion. Notre vie avant de connaître le Seigneur se passe dans les ténèbres. L'apôtre Paul a écrit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, « Vous étiez autrefois ténèbres. Dans notre cœur, il n'y avait pas plus de vie que dans une roche. Entre nos côtes battait un cœur de pierre. » Et c'est Dieu qui le dit. En parlant de la conversion, Dieu dit, « J'ôterai leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Lazare n'est pas resté dans sa grotte de pierre, il en est sorti. Et quand un homme entend la voix du Fils de Dieu, il sort de ses vieux sentiments, de son fichu caractère, de sa dureté de rocaille, de sa froideur, de son obscurité, il en sort. Et la conclusion est celle-ci, quand le Seigneur sauve quelqu'un, et là je me répète, il ne le sauve pas dans ses péchés, il le sauve de ses péchés. Il le sort d'un genre de vie pour le faire entrer dans un autre genre de vie. Voilà donc la deuxième chose que nous découvrons dans ce récit. Maintenant, j'aborde un troisième point. Je veux que vous voyiez la réalité en face. Je ne veux pas vous dorer la pilule. Votre conversion, si toutefois vous vous convertissez ce soir, ou si vous l'êtes depuis peu ou depuis longtemps, votre conversion ne rencontrera pas l'approbation générale. Certes, il y aura de la joie dans le ciel auprès des anges, mais il n'y aura pas que des anges pour s'en réjouir, il y aura des hommes pour s'en plaindre et des démons pour s'y opposer. Votre conversion ne plaira pas aux moqueurs et aux absolus. Ce fut le cas de la petite jeune fille de 12 ans. Elle était morte. Le Seigneur est entré dans la maison mortuaire où son corps reposait. Il s'est approché, et à peine a-t-il dit 2 mots que les gens se moquent de lui. Le Seigneur dit, « Elle dort. » Il pleurait à chaudes larmes, et dès qu'ils ont entendu le Seigneur dire « Elle dort », leurs larmes ont séché immédiatement et ils se sont mis à se moquer de lui. Je me représente très bien la scène de ces gens absolus, très sûrs d'eux, qui contestent ce que Jésus vient de dire et qui disent entre eux « Elle dort, elle dort ». Qui est ce fils du charpentier, ce prétentieux qui vient nous faire la leçon et nous dire qu'elle dort ? Nous, on sait bien qu'elle ne dort pas, on sait bien qu'elle est morte. La preuve, on lui a passé un miroir sur les lèvres et pas la moindre buée. Nous avons le certificat de décès du docteur. Nous avons même le permis d'inhumer. Alors qui est-il, lui, pour nous dire qu'elle n'est pas morte? Et ils se sont moqués de lui. Mes amis, ne vous y trompez pas. Votre conversion produira les mêmes effets. Il est même écrit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Une conversion ne plaît jamais à ceux qui ont des idées bien arrêtées sur certains aspects de la vie. Ils en savent tant sur la vie qu'ils n'auront que des moqueries à l'égard de votre Jésus. Encore heureux s'ils ne l'appellent pas le petit Jésus. Ils vous répondront, mais enfin, mon cher, mais enfin, c'est raisonnablement et scientifiquement impensable. La vie ne peut pas être bouleversée comme ça, d'un seul coup. Il y a dans la vie des lois bien établies. On doit les suivre. Il faut que jeunesse se passe. Puis on se rangera, puis on se mariera, puis on travaillera, et puis... Ah, c'est qu'ils en connaissent bien plus que Jésus, le prince de la vie. Mais malgré toute leur connaissance, je remarque qu'ils ne peuvent rien changer à leur vie, ni surtout rien changer à l'état du monde. Et finalement, tout ce qu'ils savent faire, c'est se lamenter sur leur vie et pleurer sur le monde. Et chose étrange, il suffit que Jésus-Christ fasse irruption dans la vie de quelqu'un, qu'il vous le retourne de l'intérieur, qu'il bouleverse sa vie de fond en comble, leur prouvant de façon indiscutable qu'ils ont tort, pour qu'immédiatement ils se mettent à se moquer de ce nouveau converti. Soyez sur vos gardes, et ne vous attendez pas à ce que le monde qui se moque de Jésus salue votre conversion par autre chose que des sarcasmes et des quolibets. D'ailleurs, plus d'un jeune homme ou plus d'une jeune fille pourra témoigner qu'au lendemain de sa conversion, ils ont fait part à leurs parents de leur joie d'avoir trouvez le Seigneur. Ils ont été reçus de haut, avec des paroles à peu près comme celle-ci. Comment? Comment ce galopin qu'on a mis au monde, à qui on a donné le biberon, qu'on a élevé, qui n'a pas encore 20 ans, il viendrait nous apprendre les choses de la vie, lui qui n'y connaît encore rien? Bien sûr, le galopin en question ne connaît peut-être pas toutes les expériences de la vie, mais il connaît la chose qui compte, c'est qu'il était perdu et que maintenant il est sauvé, qu'il était mort et qu'il est revenu à la vie, et que surtout, il connaît celui qui est le prince de la vie. Deuxièmement, il faut savoir aussi que votre conversion ne plaira pas non plus aux gens intéressés, car il y a des gens intéressés. Prenez par exemple le cas du jeune homme qui est assis sur son cercueil. Le Seigneur passe dans sa vie, il lui parle, le miracle se fait, et pan, d'un coup, il se redresse, s'assied, se met à parler, et en souplesse, il dégringole de son cercueil. Miracle stupéfiant. Mais avez-vous déjà pensé à la tête qu'a dû faire l'entrepreneur des pompes funèbres? Il a dû diminuer sa note de 50% pour n'avoir fait que la moitié de la cérémonie. Avez-vous pensé à la tête du fossoyeur qui attendait près de son trou et qui, en tapotant sur sa montre bracelet, de peur qu'elle ne soit arrêtée, s'est dit en lui-même « Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas !» Il n'a plus eu qu'à reboucher son trou ou attendre un autre client. Ces deux-là n'y ont pas trouvé leur compte dans ces résurrections. Le Christ est un trouble-fête, un empêcheur de danser en rond qui vient leur ôter le pain de la bouche. Ce que je viens de dire peut paraître burlesque, mais j'aimerais vous dire ceci. Pensez-vous que votre conversion va faire l'affaire du tenancier de bistrot quand il ne va plus vous voir venir pour boire l'anisette le matin, l'apéritif à midi, le pastis à 4 heures et le restant du portefeuille le soir? Vous croyez que ça va faire l'affaire du marchand de pronostics ou de celui qui vend les billets du tiercé quand vous ne vous adonnerez plus aux jeux d'argent et de hasard? Croyez-vous que tout le monde va y trouver son compte? Et ses amis, avec qui vous aviez l'habitude, le dimanche matin, d'aller faire la partie de billard ou la partie de piquet, croyez-vous qu'ils vont être contents quand vous n'irez plus avec eux? L'apôtre Pierre l'avait déjà prévu, quand il a écrit dans sa première épître, chapitre 4, verset 4, écoutez cela, « Ils trouvent étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. » Et sans aller aussi loin, vous croyez que ce frangin, ou cet oncle, ou cette grand-tante, ou ce cousin, qui venait vous visiter tous les dimanches, vous croyez qu'ils vont y trouver leur compte quand vous allez leur dire « J'ai trouvé le Seigneur, et maintenant le dimanche, je vais au culte, alors, à moins que vous ne vouliez m'y accompagner, ils n'y trouveront pas leur compte. » Croyez-vous qu'il a trouvé son compte, mon oncle? Un oncle à héritage, par surcroît, quand il est venu me voir un dimanche à l'heure de la réunion, quand il est arrivé, l'oiseau était parti, parce que Fernand le Grand, à l'heure de la réunion, il est à la réunion. Si à l'heure du culte ou de la réunion, vous voulez me trouver chez moi, vous n'avez qu'à prier le bon Dieu pour qu'il m'envoie une bonne bronchite ou pour que je me casse une jambe. Vous allez peut-être dire, oui, mais enfin, Fernand le Grand, enfin, vous ne pensez pas vous exagérer? Vous comprenez, nous? Mes amis, prenez-le comme vous le voulez, moi, je ne veux pas le savoir. En plus, votre conversion ne plaira pas non seulement aux absolus ou aux intéressés, mais encore moins aux opposants, car si nous relisons le texte d'un peu plus près, nous trouvons que les personnes qui étaient présentes à la résurrection de Lazare n'ont pas été tendres pour Lazare. Il est rapporté qu'à cette occasion précise, ils sont sortis de leur gond et ils ont essayé de mettre Jésus à mort parce qu'il avait ressuscité Lazare. Et ça se comprend. Ce miracle les dérangeait. Il authentifiait une vérité à laquelle ils ne voulaient pas croire. Jésus les gênait. Mais savez-vous que dans le chapitre suivant, il est écrit qu'il voulait aussi mettre Lazare à mort. Il voulait le renvoyer d'où il venait. Le Seigneur l'avait réchauffé, eux, ils voulaient le refroidir. C'est comme ça, et il faudra vous y faire. La haine qu'ils ont contre le Maître rejaillit sur celui qui est l'objet de sa sollicitude. Jésus nous l'a dit d'avance, ce qu'ils ont fait au bois vert, ils le feront au bois sec. Alors vous voilà prévenus, mes amis, candidats à la résurrection. Du côté de Dieu, je peux tout vous promettre, tout. Mais du côté des hommes, je ne vous promets absolument rien, rien, si ce n'est l'incompréhension, la moquerie, l'opposition et même parfois la haine. Je vois aussi une autre chose, c'est que le miracle dans les trois cas a été instantané. À l'instant où Jésus a parlé, le miracle s'est fait. « Jeune homme, lève-toi !» Il s'est levé. « Jeune fille, lève-toi !» Elle s'est levée. « Lazare sort !» Et il est sorti. Le salut, c'est pareil. Le salut, ce n'est pas attendre, c'est croire. Il n'est pas dit « Attends et tu seras sauvé !» L'Écriture dit « Crois et tu seras sauvé !» Et l'Écriture nous présente le salut comme quelque chose d'instantané, quelque chose d'immédiat. Oh, bien sûr, le cheminement qui nous conduit au salut peut être long, mais dès le moment où nous comprenons le sens, le pourquoi de la mise en croix de Jésus, où nous nous approprions pour nous-mêmes le salut qui est en Jésus-Christ, à cet instant-là, nous sommes sauvés. Et le meilleur moment pour croire, c'est celui où Jésus parle. Et l'Écriture dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et aujourd'hui, pour chacun ici présent, le meilleur moment pour le salut, c'est maintenant. » J'apprends encore autre chose. C'est que Jésus a donné la puissance de faire ce qu'il commandait. Quand il a dit à la jeune fille « Lève-toi », elle a pu se lever. Quand il a dit à Lazare « Sors », Lazare a reçu la puissance de sortir. C'est-à-dire que Jésus-Christ donne une puissance égale aux ordres qu'il donne. Et quand Dieu ordonne à un homme de se repentir, il lui en donne la possibilité. Quand Dieu dit à un homme de quitter son péché, il lui en donne la possibilité. Quand Dieu dit de croire, il lui en donne aussi la possibilité. Ne me dites pas ce soir, Fernand le Grand, c'est au-delà de mes forces. Il était au-delà des forces de Lazare de sortir du tombeau. Mais il a suffi que le Seigneur lui dise « Lazare sort » pour que Lazare sorte. Et aujourd'hui, le Seigneur vous regarde. Et il vous dit simplement, crois et vis. Mes amis, croyez et vous vivrez. C'est un ordre du Seigneur, et avec l'ordre, la puissance divine est aussi au rendez-vous. Je voudrais encore vous faire voir l'obéissance spontanée, exempte de calcul de ces trois personnes. Je voudrais vous faire voir ce que les trois n'ont pas fait. Et ce qu'ils n'ont pas dit. Quand le Seigneur a dit à la petite fille, « Jeune fille, lève-toi », la jeune fille n'a pas ouvert un œil plein de sommeil en disant, « Oh Seigneur, on est si bien sur ce lit, laisse-moi encore un quart d'heure. » Le jeune homme à qui Jésus a dit, « Lève-toi », n'a pas dit, « Seigneur, « si tu savais comme on est bien porté sur les épaules des copains, tu sais, Seigneur, en matière de suspension, Citroën ne fait pas mieux. Seigneur, laisse-moi encore un petit peu jusqu'à l'entrée du cimetière. » Non, bien sûr. Et quand Jésus a dit « Lazare sort », Jésus n'a pas entendu une voix caverneuse, pleine de sommeil, comme celle d'un étudiant que sa mère appelle le matin, « Oh, ça va, j'arrive. » Non, ça s'est fait sur le champ. Ils ont tous les trois obéi spontanément à l'impulsion de l'esprit de vie qui était en eux. Et je crois que c'est ce qui caractérise un nouveau converti, c'est la fraîcheur de la spontanéité, c'est la voix de Dieu au petit Samuel de l'Ancien Testament qui entend « Samuel, Samuel » et il répond « Qui es-tu, Seigneur ? Ton serviteur écoute. » C'est frais, c'est spontané. C'est Saul de Tarse, arrêté sur la route de Damas, qui dit spontanément « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Ah, ah, la fraîcheur d'une conversion, où l'on obéit sans calcul, où l'on se dépense à fond pour le Seigneur et sans compter. Je me souviens avec émotion des premiers jours, premières semaines de ma conversion. J'avais 20 ans, je m'étais converti des plaisirs mondains de l'époque qui m'entraînaient sûrement à la perdition, et j'étais tellement heureux. Et je n'étais pas seul à me convertir. Nous étions deux grands copains, deux amis d'enfance, nous avons trouvé le Seigneur en même temps. Et cela va de soi, nous n'étions pas très instruits des choses de Dieu, nous n'y connaissions rien. Nous avions trouvé le salut en allant dans une église, une assemblée évangélique à quelques 45 kilomètres de chez nous. C'est-à-dire que tous les dimanches, pour aller au culte, il nous fallait faire 90 kilomètres aller-retour. 37 kilomètres de train, 2 kilomètres de marche et 5 de tramway, multiplié par 2. Ce n'était pas la porte à côté, mais nous le faisions avec joie. Nous étions un peu comme ce fermier américain qui s'était converti dans son champ et qui conduisait tout le monde dans son champ pour qu'il se convertisse. On pensait que tout le monde devait venir dans cette église, cette assemblée, pour se convertir. On peut appeler ça des erreurs à la gloire de Dieu. On se disait, il faut que tous les copains à qui on parle du Seigneur, parce que je vous assure qu'on a témoigné partout, il faut qu'on les amène tous dans cette assemblée. Pour qu'ils entendent l'Évangile, il faut qu'ils y viennent tous. Donc faire 90 kilomètres aller-retour. Mais étant étudiants, lui et moi, nous avions tout juste assez d'argent de poche pour payer notre train. Comment alors payer le train des copains qui avaient encore moins de sous que nous? On s'est creusé les méninges pour savoir ce qu'on allait faire pour avoir des sous. Nous avons décidé de rassembler des blocs de marbre, de les polir, de les assembler, d'astiquer une trompette, de vendre le tout pour avoir des sous pour amener les copains à l'église. Vous souriez, c'était très frais, très spontané, des bêtises quoi, des bêtises à la gloire de Dieu. Je vous vois sourire, moi aussi. Bien sûr qu'il y avait derrière ces idées généreuses, une dose massive de naïveté et d'ignorance. Et pourtant, cette spontanéité reste parmi les plus beaux souvenirs des premiers jours de ma conversion. On voulait plaire au Seigneur et le servir en toute simplicité, sans calcul égoïste. Mais je crains très fort que ce que depuis nous avons gagné en sagesse, nous l'avons perdu en fraîcheur et en spontanéité. J'ajoute pour terminer qu'il y a eu 3 résultats différents. Le jeune homme s'est assis et s'est mis à parler, la jeune fille s'est levée et Lazare est sorti du sépulcre. Voyez-vous, quand Jésus-Christ sauve des âmes, il ne les appelle pas toutes à la même chose. Certains, comme le jeune homme, viennent s'asseoir sur les bancs de nos lieux de culte, régulièrement, avec fidélité. Ils viennent en fait s'asseoir aux pieds du Seigneur. Et comme le jeune homme, qui en plus de s'asseoir, s'est mis à parler, ils viennent unir leur voix à nos voix pour louer le Seigneur, dans le chant des cantiques et dans l'adoration. D'autres, comme la jeune fille, se lèvent pour prendre part, une part active aux charges et au ministère de l'Église locale. D'autres, comme Lazare, sortent. Ils sortent pour porter l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde en qualité d'évangéliste, de missionnaire, de pasteur. Chaque conversion produit des résultats différents. Je ne sais pas à quoi le Seigneur vous appelle. C'est une affaire qui se jouera entre vous et lui. Je sais simplement que le Seigneur vous appelle d'abord au salut. Voulez-vous donc répondre à son premier appel et lui dire, « Seigneur, je suis d'accord que tu me tires de ma mort spirituelle, d'accord de recevoir de toi la vie éternelle, je suis d'accord que tu me sauves, que tu me transformes, je choisis d'aller avec toi jusqu'au bout et d'en prendre les risques. » Je vous ai dit qu'en clôture de soirée, je vous demanderai quelque chose de difficile. Levez la main en signe que vous ajoutez foi au message de l'Évangile. Nous allons donc, dans un instant, avoir une minute de recueillement, que j'appelle parfois une minute de vérité. Devant Dieu, vous ferez le point dans votre vie. Vous choisirez intérieurement et vous le démontrerez publiquement par un bref mais décisif levé de main. Cela voudra dire que dans la main tendue du Seigneur, vous mettez la vôtre. Ensuite, je prierai pour vous. Ne faites pas le geste pour me faire plaisir. Et si vous ne voulez pas faire affaire avec Dieu, ne levez pas la main. N'ajoutez pas une nouvelle légèreté à toutes les autres. Le Seigneur, lui, veut faire affaire avec vous. Recueillons-nous maintenant. Alors, pendant que nous sommes recueillis, qui ce soir sera le premier à se donner à Jésus-Christ? Alors qui? Qui lève la main d'un geste décidé, franc? Qui? Eh bien oui, j'en vois une. Deux mains qui se lèvent. J'en vois plusieurs autres, et plusieurs autres encore. Mes amis, que Dieu bénisse votre décision. Et j'insiste, y a-t-il encore quelqu'un? J'insiste, encore une fois. Qui veut se décider pour Dieu ce soir? Plus personne? Oui, je vois encore une main qui se lève. Peut-être deux. Dans le contre-jour créé par les projecteurs, je ne vois pas bien, mais plusieurs se sont tournés vers le Seigneur. Nous restons recueillis, et je prie pour vous. Seigneur, Seigneur, je te prie d'accueillir ceux qui se sont résolument tournés vers toi ce soir. Tu connais l'intensité de la lutte intérieure, celle de capituler devant toi et de s'abandonner à toi. Ils ont fait ce pas. Tu as promis que tu ne mettrais pas dehors celui qui viendrait à toi. Seigneur, assure-les de ton pardon. Mets en eux l'assurance de la vie éternelle. Donne-leur ton Saint-Esprit pour qu'ils puissent marcher en nouveauté de vie. Seigneur, intègre-les dans la communauté des croyants, dans ton Église universelle par le baptême du Saint-Esprit. Et mets sur leur chemin d'authentiques croyants qui les aideront à grandir dans la foi et à marcher avec toi des pères et des mères et des sœurs et des frères en Christ. Seigneur, tous ceux qui sont ici et qui t'appartiennent se joignent à moi dans cette prière pour les recommander tous à ta grâce. Amen, Seigneur. Et c'est ainsi que nous terminons notre dernière soirée. À la sortie, j'aurai sans doute l'occasion de serrer bien des mains. Je remercie les organisateurs de ces soirées de l'accueil qui m'a été réservé à mon épouse et à moi. Merci pour les poignées de main. Merci pour les encouragements, pour les sourires, pour les promesses de prière. Et notre prière, c'est que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre ville, qu'il bénisse la France et qu'il bénisse ainsi tous ses enfants. Que Dieu vous garde. Et peut-être pourrons-nous dire à une autre fois, à l'année prochaine, à dans 2 ans. Alors maintenant, définitivement, au revoir.